Chapitre 47. Lorsqu'elle avait envoyé M. de Carquebut à Annebault pour empêcher Denise de quitter le couvent de Sainte-Rutilie et pour amener l'abbé Guillemite à Rudemont, Clémence n'avait voulu que gagner du temps. Voyant clairement la situation du marquis et la jugeant désespérée, elle s'était dit que le meilleur moyen d'amoindrir le danger qui la menaçait, c'était de s'arranger pour qu'il éclatât le plus tard possible. Sans doute, il eût mieux valu le supprimer que de le retarder. Mais comment? Comment s'opposer franchement à l'entrée de Denise ou de Louis au château si le marquis les appelait? Dans cette circonstance décisive, c'était l'adresse et la ruse qu'il fallait employer et non la résistance ouverte. Quand elle vit la voiture du médecin monter la côte en revenant d'Annebault, elle ressentit une vive émotion. Était-il seul? Avait-il Denise avec lui? Elle resta les yeux fixés sur la voiture, mais malgré toute son attention, la distance l'empêchait de voir si le médecin avait quelqu'un avec lui. Enfin, la voiture parut sur l'esplanade. Il était seul. Monsieur de Carquebut était donc arrivé en temps utile au couvent. Cependant, le danger n'était pas encore passé, car bien que le marquis fût retombé dans son engourdissement, le médecin allait peut-être vouloir l'en tirer, et alors qu'arriverait-il? Heureusement pour elle, le docteur Gillet n'osa pas risquer ce réveil forcé. Avant qu'il eût prévenu Louis, car elle ne doutait pas qu'il le prévînt, avant que celui-ci eût fait le chemin de Condé à Annebault, avant qu'on lui remît Denise, avant qu'ils se présentassent tous deux à Rudemont, elle avait du temps devant elle. Une heure environ après le départ du médecin, l'abbé Guillemite, bien promené dans un chemin impraticable par M. de Carquebut, arriva au château. Elle courut au-devant de lui et le reçut au bas du perron avec toutes les démonstrations de la plus vive reconnaissance. Puis, lorsqu'elle l'eut fait entrer, elle lui expliqua que le marquis ayant manifesté le désir de le voir, elle avait cru devoir se rendre à ce désir et envoyer M. de Carquebut à Annebault. Malheureusement, le marquis était, depuis ce moment, tombé dans une somnolence de laquelle le docteur Gillet n'avait pas osé le tirer. Quand se réveillerait-il maintenant? Quand recouvrirait-il sa lucidité d'esprit qui avait considérablement baissé? C'était ce qu'on ne pouvait savoir. Aussi était-elle désespérée de l'avoir dérangé inutilement. Cela ne fait rien, répondit le doyen. J'attendrai. Mais cet arrangement ne pouvait pas convenir à Clémence. En mettant l'abbé Guillemite dans l'impossibilité de permettre la sortie de Denise, elle avait obtenu de lui ce qu'elle voulait. Maintenant, il n'entrait pas du tout dans ses idées de lui permettre de voir le marquis. De cette entrevue, il ne pouvait sortir rien de bon pour elle, tandis que le mauvais était toujours à redouter. Il pouvait être question de testament entre eux, et le curé pouvait très bien partir de là pour chercher à faire modifier les dispositions qui le gênaient. Avec un homme tel que lui, il fallait se tenir sur ses gardes. Il ne verrait donc pas le marquis. Pour empêcher cette entrevue, il y avait une chose bien simple à faire, c'était de dire à l'abbé Guillemite que le marquis allait le prier de lui amener Denise, et que si Denise paraissait au château avant un certain moment, le testament, qui instituait le couvent de Sainte-Rutilie, légataire universel de la fortune des marquis de Rudemont, était détruit. Mais cette chose si simple était en même temps bien brutale. L'abbé Guillemite, qu'elle connaissait comme l'homme des détours et des ménagements, pourrait s'effrayer de cette complicité directe. Il ferait peut-être des objections. Il faudrait négocier, et elle n'avait ni le temps, ni la liberté d'esprit nécessaire pour s'engager dans des discussions. Elle chercha donc un moyen moins dangereux, et elle en trouva un qui, tout en paraissant à peu près infaillible, avait l'avantage de s'accorder avec ses procédés ordinaires. « Je ne sais pas, dit-elle en baissant la voix, s'il est bien prudent que vous attendiez le réveil de notre pauvre malade. »« Et pourquoi donc ?»« Mais parce que je crois qu'il serait mieux que vous ne le vissiez point. »« S'il en est ainsi, voulez-vous me permettre de vous demander pourquoi vous m'avez envoyé chercher ?»« Parce que monsieur le marquis l'a voulu et que je me serais fait un cas de conscience de résister au désir d'un malade. » mais tout en priant M. de Carquebus d'aller à Annebault, je souhaitais tout bas qu'il ne vous trouvât point. Il m'a trouvé. Sans doute, mais d'un autre côté, la Providence elle-même a voulu empêcher cette entrevue et elle a envoyé à M. le Marquis un sommeil invincible. Encore une question, si vous le permettez. En quoi cette entrevue vous paraît-elle imprudente ? Je vais vous répondre avec une entière franchise. J'ai tout lieu d'espérer que M. le Marquis a fait un testament tel que nous le désirions, c'est-à-dire avec un legs universel au profit du couvent de Sainte-Rutilie. S'il en est ainsi, est-il prudent que vous, fondateur et directeur de ce couvent, vous voyez M. le Marquis pendant le cours d'une maladie qui, hélas, menace de l'emporter ? Je suis bien ignorante en affaires, mais n'y a-t-il pas une loi qui dit que les médecins et les ministres du culte ne pourront pas profiter des dispositions testamentaires qui leur seraient faites par une personne à laquelle ils auraient donné leurs soins pendant le cours de la maladie dont elle meurt ? L'abbé Guillemite connaissait parfaitement l'article 909 du Code civil. Aussi fut-il assez surpris de l'entendre citer presque textuellement par cette jeune femme, ignorante en affaires. « Je crois, dit-il, qu'il y a effectivement une disposition de ce genre dans les lois. Eh bien, alors votre présence au chevet de M. le Marquis pourrait être mal interprétée et des gens malveillants pourraient s'en faire une arme pour combattre ce testament. Cependant, si M. le Marquis désire me voir, il l'a désiré, mais je crois pouvoir affirmer que ce désir n'était pas inspiré par des raisons bien sérieuses. Il reçoit les consolations et les secours spirituels de M. le curé de Mulsan, et son salut ne sera pas compromis parce qu'il ne vous aura pas vu. Peut-être même à son réveil ne se souviendra-t-il pas qu'il vous a envoyé chercher. » L'abbé Guillemite réfléchit un moment, mais il ne vit pas où elle voulait en venir. Elle pouvait être sincère et craindre vraiment pour ce testament. Si vous croyez que ma présence ici n'est pas utile, dit-il enfin, j'avoue que je ne tiens pas à prolonger mon attente. J'ai des affaires qui m'attendent ailleurs et je ne les aurais négligées que pour rendre service à M. le Marquis de Rudemont. Si ces services doivent être insignifiants, je vous demande la permission de retourner à mes affaires. Seulement, je dois vous prévenir que si vous m'envoyez chercher dans la journée, on ne me trouvera pas, car je ne rentrerai à Annebault que demain soir ou même après-demain matin. » En entendant cette réponse, Clémence se dit qu'il y avait vraiment plaisir à traiter des affaires sérieuses avec des gens qui comprenaient à demi-mot, et tout de suite, elle demanda au doyen où il voulait se faire conduire. « À la station. » Elle était sauvée. L'abbé Guillemite loin d'Annebault, Denise était enfermée dans le couvent pour tout le temps nécessaire. Lorsque l'abbé Guillemite eut quitté le château, elle put enfin donner à M. de Carquebus les explications que celui-ci attendait avec une impatience rageuse. « Et Louis, dit celui-ci lorsqu'elle eut achevé son récit, « Et Louis, je ne vois pas que vous ayez pris aucune précaution pour l'empêcher de pénétrer auprès d'Arthur. » « Quelle précaution vouliez-vous que je prisse ? Je ne peux pas le faire arrêter et garder par les gendarmes. »« Je ne sais pas, moi, je n'entends rien à toutes ces finasseries. Mais vous, vous auriez dû trouver un moyen. C'était votre affaire, ça rentre dans notre marché. Ce qui est dit, et je ne reviens pas là-dessus, mais à condition que vous fassiez votre tâche. » « Eh bien, il n'y a qu'un moyen, un seul, et si je le trouve, il faut que de votre côté, vous le mettiez à exécution. »« J'arrive d'Annebault et j'ai faim. »« Tout en mangeant, vous pouvez faire ce que je veux vous conseiller, c'est d'empêcher M. Louis d'entrer s'il se présente. »« Je ne sais pas, vous lui chercherez une querelle d'Allemand, vous lui direz qu'il veut tuer le marquis et que vous vous y opposez. » « Enfin, vous lui fermerez la porte, de telle sorte qu'il ne puisse l'ouvrir qu'après vous avoir passé sur le corps. Il reculera, soyez-en certain, devant cette violence, et il n'osera jamais porter la main sur vous. »« Je voudrais voir ça. » Heureusement, M. de Carquebus n'eut pas ça à voir, car Louis ne se présenta pas à Rudemont. En rentrant à Condé, le docteur Gillet s'était rendu au parquet pour prévenir Louis, mais il ne l'avait pas trouvé. Celui-ci, en effet, venait de partir avec le juge d'instruction pour faire une enquête à propos d'un incendie qui avait eu lieu dans une commune éloignée. « Quand il rentrera, dit le médecin, vous lui direz que je l'attends. » Mais au lieu de l'attendre, le docteur Gillet était parti à 8 heures du soir pour passer la nuit auprès de la marquise de la Ville-Perdrix qui était en mal d'enfant. C'était à 7 heures du matin seulement que l'accouchement s'était terminé et alors, au lieu de rentrer directement à Condé, le médecin était venu à Rudemont qui n'est qu'à 1 lieue de la Ville-Perdrix. Pendant son absence, la maladie avait pris un caractère d'une extrême gravité. Ce n'était plus quelques jours que le marquis pouvait vivre, mais quelques heures seulement. Si l'agonie n'avait pas encore commencé, tout annonçait qu'elle était proche. Cependant, le marquis avait reconnu le médecin, mais au lieu de répondre à ses questions, il lui avait répété un mot, toujours le même, « Denise ». Monsieur le marquis ayant demandé plusieurs fois sa pupille, dit Clémence, « je vais l'envoyer chercher ». Voici une lettre que j'ai écrite dans ce but et le cocher part à l'instant. Satisfait de n'avoir point à aller à Annebault, le médecin qui avait hâte d'envoyer Louis à Rudemont était parti pour Condé. Pourvu que Denise et Louis le trouvassent encore en vie. Après tout, il avait fait le possible, même l'impossible. Ce n'était pas sa faute si un concours fâcheux de circonstances était venu déranger ses combinaisons.